France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. Après les Amazones d'Afrique et leur message fort pour la condition des femmes dans le monde la semaine dernière, une émission à retrouver en podcast, balado, diffusion bien sûr, on vous raconte des parcours de vie aujourd'hui, des histoires à écouter au coin du feu avant le printemps. Voici le sommaire.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
C'est un événement BD qui occupe les rayons des librairies. Un gros livre autour d'une incroyable artiste célébrée dans le monde arabe. Mourad Boudjelal, bien connu dans le monde du sport, lance une nouvelle maison d'édition. Il est avec Martine Lagardette qui fait le récit du premier concert d'Oum Kalsoum en France. Nous serons aussi avec la chanteuse, comédienne et écrivaine Victor Laszlo. Son nouveau roman vous emmènera en Martinique avec la figure d'une jeune femme miraculée et engagée pour l'abolition de l'esclavage. Le Suisse Julien Sansonnance revient quant à lui sur un fait divers qui a marqué la région de Fribourg après la guerre. La triste décadence d'un homme qui avait tout pour être heureux, mais qui va subir malgré lui la violence humaine et il va commettre l'irréparable. Et on commence avec l'actualité francophone de la semaine. Cette émission s'engage, vous le savez, pour soutenir les librairies indépendantes partout dans le monde francophone. Aujourd'hui, nous allons à Strasbourg pour venir en aide à une librairie en difficulté. Bonjour Morgane Albissaire.
Bonjour.
Vous êtes copropriétaire de la librairie L'Oiseau Rare, située à 200 mètres de la cathédrale de Strasbourg. Vous êtes aussi galerie d'art, café, et pourtant, vous êtes en grande fragilité. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous ?
Alors, il se passe qu'on a eu la malchance d'ouvrir il y a 4 ans, donc juste avant les confinements. Mmh. Et puis, dès que tout ça s'est terminé, un très gros chantier a débuté tout autour et devant notre librairie, nous rendant quasiment invisibles. Et ça fait 3 ans que ça dure, il est en train de prendre fin. Heureusement pour nous, mais on se rend bien compte que ça a creusé pendant tout ce temps et on est resté beaucoup dans l'ombre, finalement.
D'accord. Donc
ça
aujourd'hui,
ça nous a empêché de nous développer.
Aujourd'hui, vous arrivez quand même à vendre des livres. Le café aide, la galerie aide aussi, mais vous n'arrivez plus à vous payer. En substance, c'est ça, hein ?
Oui, plus ou moins. Alors oui, c'est ponctuel, on va dire. La clientèle est en... Pourtant, augmente nos chiffres aussi, donc ce qui devrait être positif normalement. Mais on se rend bien compte qu'il y a un problème de trésorerie, propre développement de base en fait du lieu.
Alors votre propos, Morgane, ce n'est pas de lancer une souscription, parce que ça se fait aussi hein, quand on est en difficulté, mais vous, vous préférez inciter le public à soutenir les librairies indépendantes. C'est important comme démarche parce que le vrai combat pour vous, ce n'est pas d'avoir des aides financières, mais bien de faire prendre conscience aux citoyens que l'on doit fréquenter les librairies.
Oui, on peut dire ça. En tout cas, on s'est dit que l'idée de la cagnotte était, alors je le respecte pour tous ceux qui le font, était une bonne idée, mais qu'on verra vraiment comme une solution de finale si vraiment on se retrouve à mettre la clé sous la porte. Mmh. En attendant, on aimerait vraiment effectivement éveiller les gens qui viennent pourtant au quotidien, qui ont l'air attachés à la librairie, aux librairies indépendantes en général, et leur rappeler juste qu'on est là et que en fait... Il ne suffit pas de fantasmer les librairies, mais qu'il faut effectivement les côtoyer au quotidien.
Oui, c'est comme ça qu'on les aide, effectivement. Strasbourg est cette année capitale mondiale du livre. C'est un événement très important. Il va y avoir beaucoup de manifestations à partir du printemps, mais plusieurs librairies à Strasbourg sont en difficulté. Il y en a même une qui a fermé. Que font les pouvoirs publics ? J'allais vous demander, quelle est la solution là ? Parce que c'est quand même bizarre comme situation.
Pour l'instant, pas grand-chose. Enfin, ils sont dans des programmes de fêter l'année du livre. Après, pour la suite, on verra. Je pense qu'il faudra peut-être effectivement qu'on réfléchisse à quelque chose avec les villes. Parce que notre problème, nous, il est. On a eu des difficultés particulières, mais je vois bien en discutant avec mes confrères libraires qu'on n'est pas les seuls et que toutes les librairies qui ont ouvert durant ces 5 dernières années, en fait, commencent à perdre pied, en fait, avec des charges bien trop importantes pour les bénéfices que peut se faire une librairie.
Bon. Bien écoutez, bon courage. Merci beaucoup, Morgane Albisser. Oui, Mourad Boudjelal, bonjour.
Bonjour. Ce que je vous conseille d'abord, c'est de faire attention à vos stocks, parce que le problème de trésorerie est souvent lié à une fluctuation des stocks. Mm-hmm. En librairie, ça coûte très cher, donc vous avez la possibilité de faire des retours pour gérer la fluctuation de vos stocks et éventuellement retrouver un peu de trésorerie. La deuxième chose, de renégocier votre remise libraire avec les diffuseurs dans le contexte où vous êtes, voire même négocier des échéances et des dépôts, ils accepteront. Et puis la dernière chose, c'est de dire au pouvoir public, notamment à la mairie, au conseil, de dire que vous m'avez collé des travaux qui m'handicapent énormément, donc vous allez me faire un petit peu profiter des marchés publics à travers les bibliothèques en commandant chez moi compenser le manque à gagner que les travaux m'ont donné. Ça vous donne différentes solutions pour essayer de vous aider.
Merci Monsieur Boudjelal, il a été libraire, hein, Mourad Boudjelal, il faut savoir, donc il connaît un peu le système. Voilà, vous avez quelques conseils, Morgane Albisser, merci beaucoup.
Mais de rien, merci à vous.
Bon, pour soutenir, voire sauver la librairie L'Oiseau Rare, il faut simplement aller acheter vos livres là-bas si vous habitez dans les parages. Et je vous le dis clairement, faites ce choix au lieu des grandes enseignes ou des sites mondialisés comme Amazon. Oui. Les librairies indépendantes sont essentielles et jouent un rôle indiscutable dans le monde de la culture, l'ouverture sur le monde et surtout la liberté éditoriale. Il y a plein de nouveautés en mars. Allez acheter vos livres chez votre libraire indépendant. Voilà, merci à vous. Voici justement nos libraires. Quatre libraires comme chaque semaine pour la France, c'est Sophie Todescato qui est avec nous, libraire à Orléans, qui se bat tous les jours dans sa librairie Les Temps Modernes. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel.
On salue nos confrères de France Bleu Orléans qui assurent ce duplex aujourd'hui. Audrey Martel de la librairie L'Exèdre à Trois-Rivières représente le Québec et plus largement le Canada. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Le combat des libraires, vous connaissez aussi, hein ?
Oui.
Pour la Suisse, c'est Claire Renaud qui est avec nous. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Genève dans la librairie Atmosphère. Tout va bien pour vous ?
Oui, c'est difficile aussi, donc on se bat aussi.
Et Déborah Damblon, notre fidèle Déborah, connaît cela aussi. Elle a été en charge de plusieurs librairies. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Vous
oui,
représentez
toutes des guerrières.
La Belgique, libraire à Bruxelles. Dans la librairie Le Public, vous interviendrez tout au long de cette émission. Merci d'être avec nous. Et voici notre premier invité.
Je suis d'une île au milieu des envoûtements. Je suis d'une île au cœur de lave dormant, une île d'où je ne suis pas vraiment. Je suis d'une île aux tropiques doux amers, d'une île au soleil d'hiver. Et quand je cale et que tout marche à l'envers, c'est l'île mon unique présent.
Sur cette musique de Victor Laszlo. Bonjour Victor Laszlo.
Bonjour Emmanuel Carade.
Vous êtes avec nous pour un nouveau roman et non pas un nouvel album, car je rappelle pour les plus jeunes que vous êtes aussi chanteuse avec de gros succès qui ont marqué les années 80. Votre île, c'est la Martinique et c'est le décor de votre livre. Dans une plantation en 1752, une fillette est livrée elle-même. Sa mère ne s'occupe pas d'elle, mais elle a les faveurs, si on peut dire, du maître des lieux et surtout de son épouse qui va la protéger. Elle s'appelle Olvidia, elle a 7 ans, qu'est-ce qui lui arrive ?
Elle est amenée dans cette habitation pour travailler uniquement pour Madame de Lalain, la maîtresse. Et il va lui arriver de rencontrer évidemment sur son parcours toutes sortes de monstres, dont le maître de maison. Et elle va lier une relation très étrange, très contradictoire, très paradoxale avec la maîtresse de maison. Mais ce serait dévoiler le roman que de dire ce qui va lui arriver au cours de son parcours, qui est quand même très tumultueux,
oui.
Qui la verra arriver en France au moment du démarrage des conflits qui aboutiront sur la Révolution française. Et c'est surtout une petite fille qui est née avec une sorte de prescience de ce que sera son destin.
Alors on va dévoiler quelque chose quand même, quelques petites choses, Victor Laszlo, sinon on ne peut rien dire du livre. Non mais c'est vrai, parce que à l'âge de 12 ans, donc elle a 7 ans, ensuite à l'âge de 12 ans, elle est jugée prête pour le maître de la plantation, tout le monde va comprendre, il va la violer. Mmh. Elle tombe enceinte, elle sera cachée par Madame Lalonde qui comprend ce qui arrive, elle la protège en fait de son mari, ce mari immonde et puissant. Elle rencontre un jeune garçon de 15 ans aussi qui vient la voir, qui est dans la case parce qu'on la met à l'écart. Mmh. Il lui apprend la mort de sa mère, qu'elle l'a quasiment pas connu, en tout cas à distance. Et ils se rapprochent, ces deux-là. Ils sont amoureux, ils vont faire l'amour à l'âge de 13-15 ans. Et sans le savoir vraiment, ils franchissent la ligne rouge.
sans le savoir et tout en le sachant, ouais. parce qu'il se cache quand même. Ouais. À cette époque-là, pour le maître de la plantation, usé et abusé de ses esclaves, comme de son cheptel animal, c'était tout à fait normal. Donc les jeunes étaient jugés aptes à partir du moment où elles saignaient, aptes aux relations sexuelles, et puis voilà, le maître se servait en fonction de son bon vouloir.
Olivia, et le drame arrive, c'est horrible.
Oui, le drame arrive, parce que c'est très complexe comme tissu familial aussi. Et donc, comme ces deux-là ont, comme vous dites, franchi la ligne rouge, ils vont le payer très très cher.
Alors, le gamin va être égorgé, et à partir de là, c'est le traumatisme. Il y a une femme rebouteuse, qui la protège elle aussi, sur ordre de la maîtresse, qui lui dira ce proverbe créole, qui donne le titre à votre livre, Victor Laszlo, « Ce qui est pour toi, la rivière ne l'emporte pas ».«
Ça qui pou, la rivière pas cachaillé », en créole.
Alors vous savez que le proverbe originel, c'est « sable », c'est pas « ça ».«
Sable qui pou ».
Oui, c'est « sable qui ».
Ah oui,
le sable qui est pour toi, la rivière ne l'emporte pas.
Oui.
Et dans le langage courant, on a transformé en ça.
Ce qui est pour toi, oui, voilà. Absolument. Mais ça, c'est très. Ça arrive tout le temps dans les créolismes et tout ça, parce qu'on invente la langue au fil du temps. Ouais.
Alors, qu'est-ce que ça signifie, ce proverbe?
C'est notre mektoub caribéen. Hein. C'est reçois, accueille ce qui t'arrive, parce que de toute façon, ça t'arrive pour une raison. Bon, c'est une sorte de fatalisme, mais moi, je dirais plutôt une façon d'aborder la vie avec un peu de sérénité, malgré toutes les tragédies qui peuvent subvenir.
Elle va se construire, ainsi, cette jeune fille, peu à peu, comme ça, dans la protection de cette femme, Madame Lalonde. Elle se sait sauvée, d'autant qu'on lui promet d'être affranchie. Mais elle est mal à l'aise avec ce nouveau statut.
Elle est très mal à l'aise, puisque les esclaves, ses compagnons de vie depuis son enfance, sont toujours là, un petit peu plus loin dans la plantation, dans ces gargotes, enfin pas gargotes, mais ces taudis que sont la rue Cazenègre. Et ils se font toujours massacrer, maltraiter dans les plantations, etc. Donc elle ne comprend pas pourquoi elle serait affranchie alors que tous ses compagnons ne le sont pas encore.
Bon, on va laisser la place à nos libraires qui ont lu votre roman, Victor Laszlo. On va voir ce qu'ils en pensent tout de suite avec la Belgique, Déborah Damblon.
Eh bien, grâce à votre introduction, je suis très très facilement entrée dans votre roman et je me suis attachée à votre héroïne. Alors, toute la première partie du livre, j'étais passionnée par ce que je découvrais, mais même si mon intérêt pour le contenu de ce que vous racontiez a perduré jusqu'au bout, mon attention et mon affection pour la petite se sont émoussées au fil des pages. Mais je garderai cependant de votre récit le souvenir d'un épisode incontournable de votre histoire que je n'aurais pas aussi bien compris sans vous et sans Olivia.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, ça va très vite. Hein. Votre écriture est très fluide, Victor Laszlo, faut le dire. Et vous enchaînez les événements, donc on ne s'ennuie pas, mais c'est vrai que ça peut, à un moment, on est submergé parce qu'il y a beaucoup de choses. Claire Renaud pour la Suisse, qu'en pensez-vous?
Oui, alors moi j'ai été captivée tout de suite par cette odyssée. Votre héroïne, elle est lumineuse malgré les tragédies qu'elle traverse. Et vous nous contez cette histoire dans une écriture très fluide. Moi je trouve qu'il y a beaucoup de livres sur l'histoire de l'esclavage, mais moins sur l'histoire de l'abolition de l'esclavage. Et donc, je recommande cette lecture.
Bien. Audrey Martel au Canada.
J'ai aussi beaucoup aimé l'idée de départ du roman. Ça pique vraiment ma curiosité. Le traitement du sujet demeure somme toute assez classique, par exemple, voire même un peu lisse. Le fait que le personnage principal se retrouve souvent aux premières loges de la grande histoire m'a parfois paru un peu racoleur. N'empêche que c'est un roman qui a le potentiel de plaire à de nombreux lecteurs.
Bon, c'est le prétexte, hein, ce personnage qui fait la grimace, Victor. Parce que
non, racoleur. Les personnages qui sont adossés à l'histoire, ils traversent l'histoire. Et ça les construit, ça les a tous construits, l'histoire.
Il faut quelqu'un, en fait, pour raconter.
Pour incarner.
Oui, parce qu'en fait, vous partez de cette année, 1752, en Martinique, pour aller jusqu'à la Révolution française.
Jusqu'à la première abolition de l'esclavage en 1794, qui est tragique, puisque 15 jours après, elle sera abrogée.
Voilà.
Et puis, ce que je voulais dire aussi, juste très rapidement, c'est que oui, le personnage est paradoxal, en fait. Même cette petite fille qui est solaire, c'est un paradoxe, tous les êtres humains sont ambivalents.
On va expliquer pourquoi c'est un paradoxe. Oui. Parce que votre jeune fille, elle va partir avec sa maîtresse à un moment. On va pas tout raconter, mais la plantation est vendue, donc ils partent en Europe, ils font un voyage incroyable, très long, à l'époque, on passe par l'Afrique, on passe de l'autre côté, pour aller de la Martinique vers la France. Et ils se retrouvent finalement dans un milieu très noble à Paris, parce qu'elle découvre que cette dame-là, elle est issue de la noblesse, elle fait partie de la cour du roi, et elle est dans ce paradoxe-là, parce qu'elle vient des opprimés, et elle se retrouve dans le cercle des nobles.
Oui, enfin, pas elle directement, parce qu'elle va rester très confinée. Oui, mais c'est vrai qu'elle est avec eux. Puis surtout, ce qu'elle va rencontrer, ce sont les gens qui travaillent à la libération du peuple. Mm-hmm. Madame de Gouges. Alors, c'est peut-être ça que disait notre libraire canadienne tout à l'heure. C'est la rencontre avec Olympe de Gouges. Mais c'est difficile, quand on travaille sur le féminisme, sur l'abolition des privilèges, etc., de faire l'impasse de Madame de Gouges et de la Société des Amis des Noirs.
Oui, elle va aller dans le cercle de l'âme de Gouges, mais elle ne s'y retrouve pas vraiment.
Parce qu'elle se rend compte que c'est loin d'être des féministes et que, à partir du moment où elle avouera avoir été violée, elle est regardée comme... voilà, c'est très choquant et ça ne concerne pas les hommes, surtout pas. Non, l'âme de Gouges, elle a beaucoup d'admiration pour elle. Elle sera à ses côtés jusqu'à sa décapitation.
Oui. Ce qu'elle veut aussi, c'est mener la révolte. Être un peu dans...
Elle veut en être.
Elle veut en être. Oui. Parce que son petit copain de 15 ans qui s'est fait égorger, il était dans cet esprit-là. Lui,
absolument,
il voulait s'instruire pour mener la révolte.
Absolument.
Elle garde ça en elle. Mm-hmm. Et elle se dit, si je pars de la Martinique, je ne vais pas y arriver. Donc ce combat s'éteint un peu en elle.
Il s'éteint pendant quelques années, et puis avec l'enfant qu'elle a, qu'elle voit grandir, etc. Et tous ces paradoxes qui se multiplient au fil du temps, puisque son enfant, vous comprendrez pourquoi quand vous lirez le livre, mais ça la rattrape lorsque les combats explosent dans Paris. La prise de la Bastille, elle est dans le Marais, donc elle est sur l'îlot qui verra tous les événements de la Révolution advenir autour d'elle.
Vous posez cette question aussi, Victor Laszlo, de l'intérêt collectif face à l'intérêt individuel,
ouais,
c'est difficile de choisir ça.
Oui, mais elle choisira clairement l'intérêt collectif.
Et, oui.
Ouais.
Et dans les périodes troubles, l'intérêt collectif prend le dessus.
Oui, bon, il faut des gens de courage quand même, de grande rigueur morale pour privilégier l'intérêt collectif. C'est humain de choisir, de se choisir. C'est pas une critique, c'est pas un jugement que je porte. C'est juste que voilà, il y a des personnes dans le monde, dans l'histoire de notre humanité, qui ont choisi l'intérêt collectif et qui ont de fait évoluer notre monde.
Et c'est difficile pour elle parce qu'elle est noire. Elle le dit ça parce que quand elle arrive dans les campagnes françaises, on la regarde de travers. Certains voient pour la première fois une femme noire.
Absolument, absolument. Il y avait des noirs à Paris, c'était l'époque du Chevalier Saint-Georges aussi. Donc il y avait des noirs dans la société parisienne, mais dans les campagnes, puisqu'elle sera amenée à traverser la France pour aller en Autriche, les noirs, ça ne court pas les champs.
Oui, c'est ça. pas là-bas, en tout cas. Bon, merci Victor Laszlo. Merci pour cette histoire fleuve, parce que c'est fondé sur des faits historiques. Vous avez inventé une histoire, mais tout est crédible, en tout cas. Et il y a des faits historiques très forts qui ont vraiment existé. Merci. Ce qui est pour toi, La rivière ne l'emporte pas, est paru aux éditions Robert Laffont. Vous restez avec nous?
Absolument.
À suivre une BD fleuve sur un pan de la vie de Oum Kalsoum. Vous connaissez Oum Kalsoum?
Comment? J'aimais beaucoup,
c'est vrai,
beaucoup.
C'est paru aux éditions Oxymore, nouvelle maison d'édition BD créée par Mourad Boudjelal, le créateur des éditions Soleil et aussi ex-président d'un grand club de rugby. Il est en plateau avec Martine Lagardette, scénariste de cette bande dessinée événement. Avant cela, voici le regretté Rachid Taha qui rendait hommage à Oum Kalsoum.
Du manque d'Orient, qu'aucun soleil ne m'emmène vers des chats aux yeux perçants, qu'aucun vent ne vient d'Aden pour me sabler le champagne, qu'aucun tapis ne m'envole sous les barrières, les montagnes, sous les barrières, les montagnes. Alors je m'affranchis, me désenclave, me désesclave, je m'adresse des timbres d'arabiscotés, des langues étranges et roulantes, aux arabesques intrigantes, aux arabesques intrigantes. Je zoome sur Oum, le ton d'une mélopée. Je zoome sur Oum, et ça me désoriente. Je zoome le ton d'une mélopée. Je zoome sur Oum et ça me désoriente. Et
terme, qu'ici la vie montre les dons, voudrais se croire éternel. Quand le désert parle à mon âme, me dit le vent vient du levant, et que j'entends c'est je t'attends, que j'entends c'est je t'attends. Je zoome sur Oum, le temps d'une mélopée.
Taha avec Zoom sur Oum.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Martina Gardette.
Bonjour.
Rebonjour Mourad Boudjelal.
Bonjour.
Oum Kalsoum, l'arme secrète de Nasser est parue aux éditions Oxymore. Les éditions Oxymore, nouvelle maison d'édition pour la bande dessinée. Mourad Boudjelal, vous aviez créé les éditions Soleil dans le sud de la France à Toulon, qui a révélé entre autres L'Enfeuse de Troie, immense succès. Vous avez ensuite vendu cette maison aux éditions Delcourt en 2011 pour vous consacrer au rugby. Le RCT que vous avez mené au firmament de ce sport, trois fois champion d'Europe et champion de France. Après une transition vers le foot, vous avez décidé de revenir à vos origines, la BD, avec cette nouvelle maison. Le sport de haut niveau vous a lassé ?
Vous savez, on ne guérit jamais de son enfance. Moi, je suis né dans l'édition de BD. C'était mon rêve de gamin. Et le reste, ce sont des parcours pour voir, en tant que spectateur, pour voir ce que j'étais capable de faire. Et puis là, je suis revenu à mon véritable amour de jeunesse, qui est la BD, et en me disant, est-ce que le Mourad d'aujourd'hui peut faire aussi bien que le Mourad d'il y a 20 ans quoi. Je me bats contre moi-même.
Alors justement, on se pose la question, Mourad, parce que vous avez raison de dire ça. Est-ce que le Mourad d'aujourd'hui peut faire aussi bien que celui d'il y a 20 ans? Parce que on a parlé de vous pour reprendre l'OM en 2020, avec des investisseurs saoudiens et émiratis. Un projet contrarié, sans entrer dans les détails. Et on se dit que l'histoire recommence. La BD, puis en ligne de mire, l'Olympique de Marseille plus tard.
Non, la BD c'est très bien, je me prends un pied incroyable. Bon, je suis associé avec Antoine Gallimard, donc c'est déjà qu'on est associé avec une maison comme Gallimard, on a un devoir d'être bon, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une compétence. Et non, là je suis très bien, et c'est même surprenant, parce que j'y suis retourné pour voir, et en fait je prends un plaisir incroyable. En résumé, je me régale, comme on dit dans le sud.
Bon, on va parler de cette bande dessinée qui est l'un des premiers coups de votre nouvelle maison d'édition, La vie de Oum Kalsoum, star du monde arabe, dessinée par votre frère Farid Boudjelal, que l'on a déjà reçu, bien sûr, dans cette émission, et scénarisée par Martine Lagardette. C'est une femme incroyable, Oum Kalsoum.
Oui, c'est une femme puissante.
Oui.
Influente.
Oui.
Géniale, talenteuse. Elle est magnifique.
Elle souhaite chanter que dans le monde arabe au début.
Que dans le monde arabe. Elle n'a jamais chanté, sinon à l'Olympia, bien sûr, en 67, mais elle n'a jamais chanté hors du monde arabe.
Ouais. Alors, elle s'essaye au cinéma, au début, quand l'Égypte veut son cinéma local, au début des années 30. Il y a de grandes ambitions culturelles en Égypte. Mais elle comprend qu'elle est une chanteuse, pas une comédienne, et que son avenir, c'est dans la musique.
Oui, elle a fait 5 films. Et puis très vite, elle est revenue à ses premiers amours, elle aussi, c'est à la chanson, bien sûr. C'était sa place, c'est là qu'elle a pu donner toute l'ampleur de son talent, bien sûr. Et je crois que c'est ce que aussi le public attendait d'elle, son public attendait d'elle.
Oum Kalsoum réussit la prouesse d'être dans la tradition Mourad Boudjelal, d'être respectée par les hommes puissants et en même temps, elle porte une parole féministe. Elle incite par exemple les femmes à ne pas porter le voile et personne ne dit rien. À l'époque, elle est au-dessus de tout. Comment est-elle arrivée à ça ?
Bah, disons que Oum Kalsoum, c'est quelqu'un qui peut dire exactement ce qu'elle veut parce que ça va au-delà de l'humain, quoi. C'est une déesse dans le monde arabe, c'est un dieu. On a du mal à le percevoir, nous, mais... Oum Kalsoum, moi, mes parents écoutaient Oum Kalsoum, et lorsqu'ils écoutaient Oum Kalsoum, c'était l'équivalent de la prière. C'était aussi fort qu'à la prière, c'était religieux, écouter Oum Kalsoum, parce que c'est l'identité arabe, c'est l'identité de la culture arabe, et bien au-delà. Et ce qui explique les difficultés que Bruno Cocatrix a rencontrées dans le concert à l'Olympia, parce que personne, dans cette France de Gaulle, personne pensait qu'elle pouvait venir chanter en France. Personne n'y croyait. Bruno Cocatrix ne vendait pas un billet. Personne ne pensait que c'était possible qu'elle vienne à l'Olympia.
Alors on va y venir parce qu'effectivement, Martine vous racontait sa première venue en France en 1967, à l'époque du général de Gaulle et surtout du ministre de la Culture, André Malraux. Il y a un homme qui veut faire vivre sa salle de concert parce que l'été, il y a les stars du Yéyé qui sont en tournée. Et c'est Bruno Cocatrix qui est le patron de l'Olympia. Donc il a une idée, il fait venir des artistes du monde.
Il va chercher, il fait son petit tour du monde, il va chercher des artistes pour les faire découvrir à son public et puis pour remplir l'Olympia pendant la période des vacances d'été. Et donc il est allé en Égypte, c'était pas la première fois, il était déjà allé en Égypte, il avait déjà fait venir une troupe. Et là, cette fois-ci, il a rencontré le ministre Okacha, qui était vice-premier ministre et ministre de la Culture. Et Okacha lui a dit, mais écoutez, nous on a la perle rare, on a une chanteuse extraordinaire, Oum Kalsoum, et Cocatrix ne connaissait pas Oum Kalsoum.
Alors, il lui dit aussi, cette femme est un paradoxe, une énigme. Cocatrix se dit, qui c'est celle-là ? On a retrouvé un son dans nos archives dans lequel Cocatrix raconte justement cette proposition du ministre. Écoutez.
Un jour, le ministre en question me dit, mais pourquoi vous n'engagez pas Oum Kalsoum ? Je dis, je veux bien, mais qui est-ce ? Et j'étais persuadé que c'était une danseuse du ventre. J'avais jamais entendu parler d'elle. Alors, il me dit, mais vous savez, elle pourrait faire toute la soirée. Je lui dis, toute la soirée, mais c'est une danseuse du ventre. Il me dit, mais non, ne me dites pas ça, surtout c'est une grande chanteuse. C'est la descendante en ligne directe de Mahomet. Elle chante une fois par mois au Caire, et tous les premiers jeudis du mois, et... On loue 2 ans à l'avance sa place.
Une danseuse du ventre. C'est une autre époque, hein. C'est très condescendant, hein, Mourad Boudjelal, quand on entend ça aujourd'hui.
Aujourd'hui, on ne pourrait pas se permettre ça.
C'est incroyable.
Oui, mais en même temps, quand Bruno Cocatrix dit ça, il le dit avec innocence. Quoi.
Oui, c'est vrai.
L'innocence de l'époque.
Oum Kalsoum qui va tenir à distance la médiocrité. Vous racontez ça, Martine Lagardette. Elle vit dans une maison immense dans laquelle elle héberge parfois les pauvres de son village qui viennent au Caire. Mais elle est intransigeante. C'est une damnée de la perfection. Et ça, Cocatrix ne le sait pas encore.
Alors Cocatrix ne le sait pas encore. Et effectivement, elle est très exigeante, y compris avec ses musiciens. Elle exigeait d'eux qu'ils soient capables de l'accompagner dans toutes ses improvisations. Et en même temps aussi, elle ne leur annonçait pas toujours ce qu'elle allait chanter. Donc il fallait vraiment des gens qui s'adaptent. Elle avait les meilleurs musiciens égyptiens de son époque, bien sûr.
Et c'est Claude François qui dira à quel point sa musique, sous des apparences répétitives, est précise. Et joue comme ça avec des subtilités entre son orchestre et sa voix, comme personne ne peut le faire à son époque. Il y a deux libraires qui ont lu cette bande dessinée, Mourad et Martine, on va leur donner la parole. Avec la Belgique, tiens, Déborah Damblon.
Alors moi, j'adore ces histoires où la vie rejoint ou même dépasse la fiction. Et de Oum Kalsoum, je ne connaissais, et j'aimais beaucoup, que les mélodies lancinantes. Mais de la femme, j'avoue que je ne connaissais rien. Et de son passage à l'Olympia, encore moins. Alors j'ai vraiment, vraiment apprécié découvrir cet épisode précis. Et encore plus être aspirée par un récit, mais digne d'un scénariste à l'imagination fertile. Et porter ce qui ne gâte rien par des illustrations formidables avec une vraie interprétation artistique.
Avec une technique très particulière, hein, qu'on ne voit que dans cette bande dessinée, j'avais jamais vu ça avant, ou très peu, des documents d'époque
retouchés
avec des photos sur lesquelles votre frère Farid a dessiné.
Oui, ça fait des photos-dessins, quoi.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Alors c'est tout en sépia, en noir et blanc, il y a un jeu de couleurs comme ça, qui plaît ou qui ne plaît pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas c'est vraiment un engagement très fort artistique. Claire Renaud pour la Suisse, qu'en pensez-vous ?
Oui, moi j'ai trouvé tout était réussi et justement ce dessin graphique noir-blanc qui accentue ce moment historique et unique. Cette BD, elle est non seulement artistique mais aussi politique et j'ai vécu de l'intérieur le stress de l'organisateur qui n'a encore vendu aucun billet à quelques jours du concert. Et puis voilà, il va y avoir la magie de la diva qui va arriver et tout va se résoudre. C'est une histoire passionnante et la BD est fabuleuse.
Voilà, vous avez séduit nos libraires. Alors effectivement, il y a cette histoire de billets, Mourad Boudjelad, ouais. Avec Cocatrix qui va faire venir Oum Kalsoum en France, et c'est compliqué, c'est très compliqué. Elle a des exigences inédites pour l'Olympia.
Oui, ben c'est une diva, ce qu'on appelle une diva. Mais le génie de Bruno Cocatrix, c'est surtout de l'avoir fait venir et d'avoir fait venir à la caméra de télé. Et là, les gens l'ont cru. Et là, ils se sont rendus compte que c'était vrai.
Oui, parce qu'en fait...
Personne n'y croyait, voilà. Je vous l'ai dit, personne n'y croyait.
Cocatrix compte sur les Arabes immigrés en France.
Mais ça va aller bien au-delà.
Mais ils
ça
n'y croient pas. C'est non, quand on leur dit Oum Kalsoum va venir, non, ils disent c'est pas possible.
C'est comme si on vous dit une personne sainte qui va venir, on dit non, c'est pas possible, parce que c'était l'identité du monde arabe et qu'elle est restée dans l'identité du monde arabe. Et le fait qu'elle vienne en France, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Et quand on voit les images, ces images à Paris, c'est l'émeute.
Oui. Quand
elle atterrit, c'est l'émeute pour Bruno Cocatrix, parce que là, les gens se disent « Mais c'est vrai, c'est elle en vrai, quoi, on va la voir. »
Mais c'est vrai, quand elle atterrit à l'aéroport, pas un seul billet n'est vendu.
Pas un seul.
Il n'y a que Claude François, alors peut-être que vous l'avez imaginé pour la BD, qui a acheté un billet, mais personne n'a rien acheté. Et c'est à la Maison de la Radio, où nous sommes en ce moment pour enregistrer cette émission, que se déroule une émission de télévision, et qu'à ce moment-là, tout le monde réalise qu'elle est là, qu'elle est vraiment là. Et les billets coûtent 300 francs. À l'époque, il faut savoir que c'est l'équivalent d'un SMIC.
Ouais, et
ils vont s'endetter.
Les gens vont s'endetter, il y a des gens même qui vont, des émirs, je parle devant Martine, qui vont faire des chèques en blanc. Pour avoir des places. Il y a même des gens qui ont menacé, mais de vraiment menacé avec une arme, pour dire je veux être au concert, je veux venir. C'était une émeute incroyable, et avec deux concerts et une ambiance pendant les concerts, qu'elle est, on était dans l'évanouissement. Quoi. Oum Kalsoum, comment dire ? C'est la Calas plus, quoi. La Calas, c'était une représentation énorme, mais Oum Kalsoum, c'est au-delà. Elle a eu des funérailles nationales. Quoi. Mais Oum Kalsoum, elle est habitée par ce côté saint. Elle était entre l'humain et les dieux.
Et surtout, elle avait une dimension politique.
Elle savait
très bien l'importance de venir en France, parce qu'à l'époque, le général de Gaulle et surtout André Malraux se rapprochent du monde arabe par la culture. C'est par le biais de la culture qu'ils vont nouer des relations diplomatiques. Oum Kalsoum le sait. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va demander un cachet incroyable, 20 millions de centimes à l'époque, c'est énorme. 40 personnes pour l'accompagner, l'hôtel Georges V pour loger tout le monde, une catastrophe financière, mais on a accepte, parce qu'on sait aussi qu'il va se passer quelque chose.
Il s'est passé quelque chose, c'est un événement, et puis si je peux me permettre, c'est l'histoire du monde arabe, et c'est l'histoire d'un monde arabe différent. L'Égypte de cette époque, c'est magique, quoi. Il y a une magie, et malheureusement, aujourd'hui, les choses ont changé, mais l'Égypte était vraiment un pays dans le monde arabe qui était en avance, qui était vraiment en avance, et c'est une très très belle époque. Voilà.
Et Oum Kalsoum est surtout très proche de Nasser.
Oui,
une fidélité inconditionnelle, réciproque, ils s'adorent tous les deux.
Oui, peut-être même plus, mais...
Il y avait
une vraie complicité entre les deux.
Ils avaient les mêmes origines sociales, le même patriotisme, la même idée de ce que devait être l'Égypte.
C'était la grande Égypte.
Et le panarabisme aussi.
Et pendant la guerre des Six Jours, elle va chanter pour Nasser.
Absolument.
Elle va chanter pour les troupes, elle va soutenir les troupes, elle va d'ailleurs décaler sa venue en France à cause de ça.
Et ce qui est aussi amusant, c'est qu'en France, aussi bien le général de Gaulle qu'André Malraux étaient à quelques mois des événements de mai 68, dont ils ne se doutaient pas que tout allait être chamboulé quelques mois après. La France allait changer, quoi.
L'année 67 a été une année très très riche en événements, effectivement.
Oui.
On va terminer avec une particularité que Cocatrix ne connaissait pas. Quand Oum Kalsoum est en concert, elle ne chante que deux ou trois chansons. Écoutez le témoignage de Bruno Cocatrix à ce sujet.
Elle me dit, je ne sais pas, je vais chanter deux chansons ou trois. Alors, un peu inquiet tout de même, parce que je me dis deux chansons, ça fait 6 minutes pour nous, deux chansons. me disait, ça me paraît même un peu juste. Je lui dis, mais vous ne croyez pas que ce soit trop peu? Il me dit, écoutez, je chanterai le nombre de chansons qu'il faudra, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai découvert le soir la vérité, c'est que chaque chanson durait 1h30. Au bout d'une heure et demie, il faisait 20 minutes d'entracte, et puis il chantait la seconde chanson, qui durait à nouveau 1h30, puis il faisait 20 minutes d'entracte, et puis une troisième chanson. Elle a chanté 4 comme cela, ce qui a dû faire 6 heures de tour de chant à peu près dans la nuit.
Effectivement, Kalsoum, une énigme. La plus courte de ses chansons, figurez-vous, fait une vingtaine de minutes, mais souvent c'est plus d'une heure. Elle chantera non pas 6 heures, comme le dit Bruno, mais 5 heures sur la scène de l'Olympia. Et vous écrivez dans la BD, Martine, par la durée et l'affluence, les récitals des 13 et 15 novembre 1967 restent uniques dans les annales de l'Olympia et dans l'histoire du music hall.
Ah oui, absolument. Nous avons rencontré Jean-Michel Boris, qui était le bras droit de Bruno Cocatrix, le régisseur général qui avait accompagné toute cette période, et ils n'avaient jamais vu ça. Pour eux, ça a été un événement extraordinaire. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, on n'en a pas beaucoup parlé ensuite.
Eh oui, c'est resté
étonnant, oui.
Comme un miracle,
ah oui,
un moment suspendu.
Complètement.
Ouais. Qui a suspendu même la France, hein. Les médias français, après, la culture, tout le monde était là. Tout le milieu artistique était dans la salle, tout le milieu politique, tout le monde était là.
Même Maria Callas.
Même Maria Callas.
Oui, Oum Kalthoum, qui est une chanteuse qui est respectée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands chanteurs.
Hein, oui.
Qui ne sont pas forcément du monde arabe.
Kalsoum avait tout compris, notamment l'importance de la radio.
Oui.
Et c'était très important, elle avait compris qu'en s'exprimant à la radio, qu'en chantant une fois par mois à la radio, elle réussirait à fédérer tout le monde arabe. Et c'est ce qu'elle a fait toute sa vie. Merci Martine Lagardette. Merci Mourad Boudjelal.
Merci.
Bonne chance pour votre nouvelle maison d'édition.
Je suis pas inquiet.
Vive le RCT quand même.
Ouais, absolument.
Oum Kalsoum, L'arme secrète de Nasser est parue chez Oxymore, donc une BD fleuve avec des documents d'époque et des photos où se pose le dessin de Farid Boudjelal. C'est très étonnant. À suivre, l'écrivain suisse Julien Sansonnens qui va vous raconter un terrible fait divers après la Seconde Guerre mondiale. Mais pour l'heure, on écoute Yamé dans la librairie francophone.
Tu m'entends, tu décolles. Pour changer de vie, j'ai dû hausser le ton. Trop de flots, moula. Bah ouais, bah ouais. Je repère plus, je connais tous les chemins. Toi, fais que des prennes, des sons sans lendemain. Quand je perds, ça te fait un peu de changement. Tu reconnais, mon la DPS et mes grecs amènes. T'es pas dans le game comme fantasme, c'est régalé. J't'ai dit, j'ai le palais. Avant le skill signé, fallait. J'ai les pieds sur terre, la vision d'elle. Il peut pas m'égaler. Hello.
C'était Yamé avec Bahouet. Révélation masculine aux dernières victoires de la musique en France. Bah ouais.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Bah ouais, la chronique des libraires première partie par exemple, un coup de cœur au Canada, Audrey Martel.
Ouais, l'essai littéraire Le bal des absentes qui vient de paraître en format poche chez BQ. Dans ce livre, les autrices, qui sont deux enseignantes de français, se questionnent sur la place des femmes dans le corpus des lectures obligatoires à l'école. Leur constat est, bien sûr, qu'il n'y a pas assez de textes de femmes enseignés à l'école et que trop d'œuvres majeures signées par des femmes demeurent encore méconnues. Bref, elles amènent une réflexion importante.
Le bal des absentes aux éditions BQ, hein, bibliothèque québécoise, hein, pas barbecue. Oui. Merci Audrey. Un coup de gueule en Suisse, Claire Renaud.
Oui Emmanuel, moi j'ai un coup de gueule pour Les Indulgences de Pascal Tramer aux éditions Flammarion.
Elle était venue dans l'émission en parler ?
Ah,
oui.
Ok, désolée.
Vous allez l'écouter en podcast.
Oui.
Bien sûr, allez-y.
Alors écoutez, c'est un livre qui me dérange déjà par son titre et par le regard qu'il pose sur une histoire d'amour entre un oncle et une nièce. Alors nous aurons le point de vue de cinq femmes à cinq générations différentes, mais à force d'indulgence et de nuancer le propos, le roman devient édulcoré et peu crédible à mon goût et surtout peu indulgent. Je n'ai pas cet avis. Voilà. Les femmes sont insignifiantes et effacées face à des hommes qui sont brillants ou dominants.
Oui.
J'ai trouvé que l'écriture était froide et brute, ce qui rend le roman pesant. Bref, bien. C'est dommage, déception.
Bon, des libraires avaient aimé, hein. En tout cas, sachez-le, vous écouterez l'émission. C'est le nouveau roman de Pascal Kramer, Les Indulgences aux éditions Flammarion. Merci, voici une nouvelle amie pour nous. Je vous remercie, Claire. Allez, on y va.
La librairie francophone.
Il est suisse aussi, il s'appelle Julien Sansonnance. Bonjour Julien.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez peur du coup, hein?
ça envoie.
Ça envoie parfois. Votre roman Agnus Dei s'inspire d'un fait divers terrible, la chute d'un homme qui avait tout pour vivre une vie sereine. Nous sommes en Suisse, votre pays, donc dans la région de Fribourg. Marcel est issu d'un milieu populaire, il est maréchal ferrant. Il a 29 ans quand il rencontre Jeanne Sarah dans un bal de village. Un an plus tard, en 1938, il se marie, mais la Seconde Guerre mondiale couve. Quelle est la personnalité de ce jeune homme ?
C'est un homme qui est effectivement travaillé par son époque. C'est un huis clos, hein. Le roman se présente comme un huis clos. Moi, j'aime beaucoup décrire comme ça des situations de petites communautés avec leurs propres règles, leur propre histoire, leur propre fonctionnement, hein, leurs secrets aussi. J'avais travaillé sur l'ordre du temple solaire et là je travaille sur un petit village. Alors il ne s'agit pas du tout d'un phénomène sectaire, mais voilà, un village avec ses propres règles. Et...
Lui, comment il est ? À l'origine, il est comment ce gars-là ?
Bah c'est un homme qui se débat avec ses propres démons, effectivement, hein, comme nous tous, sans doute. C'est quelqu'un qui n'a pas eu beaucoup de chance, probablement non plus, et qui avait tout pour être heureux, effectivement, qui a été trahi. Mmh. C'est l'histoire d'une trahison particulièrement cruelle.
Bon, il vit une vie simple, éloignée du monde, dans ce village, effectivement, en huis clos, un peu en autarcie. En Suisse, on a un service militaire qui est plus un rite de passage vers l'âge adulte qu'une préparation au combat. On n'est pas prêt pour la guerre, en fait.
On n'est pas prêt pour la guerre, mais tout de même, en 39-45, on ne savait pas vraiment comment les choses allaient tourner. Et la Suisse se préparait quand même. Les plans étaient là, la mobilisation a eu lieu. Un certain nombre de centaines de milliers d'hommes ont été sous les drapeaux.
Lui, il va être mobilisé d'ailleurs.
Il va être mobilisé, effectivement. Et les écrivains, on peut empoigner cette période assez particulière de la mobilisation. Hein. On sait qu'en Suisse, il y a eu tout un débat aussi sur le rôle, la neutralité de la Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est des débats qui sont parfois difficiles. Et ça m'intéressait aussi de réexplorer un petit peu cette époque, qui a été une époque aussi importante pour les femmes. Puisque les hommes étant partis sous les drapeaux, elles ont eu à prendre de nouvelles responsabilités, elles ont pu faire leurs preuves, que ce soit à l'usine, dans les champs, mais également dans des positions dirigeantes. Et je pense que la Deuxième Guerre mondiale, la MOB a été effectivement un moment féministe important pour la Suisse.
Et vous dites qu'en Suisse, Julien Sansonnance, à cette époque, la peur du juif et des bolcheviks prédomine.
Oui, la Suisse est parcourue de tous ces courants qui parcouraient l'Europe. Hein. Elle n'est pas restée hermétique, effectivement.
Elle n'est pas claire avec les Juifs qui essayent de rentrer dans le pays.
Effectivement, l'histoire de la Suisse est assez ambiguë par rapport à cette époque-là, effectivement. Jacques Chesset en avait parlé, d'ailleurs.
Oui, oui.
Un juif pour l'exemple, un roman qui avait beaucoup marqué en Suisse, hein, qui avait presque fait scandale. Il avait d'ailleurs été vilipendé, voire menacé pour ce texte-là. Donc effectivement, ça reste un pan compliqué de l'histoire et c'est d'autant plus intéressant, effectivement, de mettre ces tensions sur le papier.
Alors, vous mettez le sujet hein, sur le tapis, comme on dit. Vous êtes vraiment très clair avec cette ambiguïté suisse, Julien Sansonnens. À un moment, vous écrivez « À l'issue du conflit, la Suisse s'en sort bien. Oui, le pays eut à endurer plusieurs bombardements. Cependant, il parvient à ne jamais prendre une part active à la guerre, à se garder de toute perte humaine, à maintenir une industrie tant bien que mal, à développer son secteur bancaire, porté par le fameux secret qui établira sa prospérité. La Suisse a manœuvré habilement, non sans cynisme. Par la suite, le rôle qu'elle jouera fera l'objet de pénibles remises en question. »
Oui, c'est ce dont on parlait à l'instant. Effectivement, je pense qu'il existe un génie suisse de la diplomatie, peut-être de la manœuvre. Effectivement, la Suisse s'en sort toujours relativement bien. Effectivement, c'est un peu mystérieux. Mais c'est intéressant, je pense.
Marcel, votre personnage va perdre ses repères peu à peu dans ce contexte-là. Surtout que son épouse semble lui reprocher de l'avoir abandonné.
Oui, effectivement, voilà une femme qui se retrouve seule avec des enfants en bas âge, des problèmes vraisemblablement de revenus, effectivement, et elle se sent abandonnée, comme si finalement c'était la faute de Marcel. Lui n'a rien demandé, lui serait volontiers resté effectivement auprès des siens, auprès de ses enfants.
Il se dit d'ailleurs, quel mauvais choix ai-je donc fait,
effectivement, et là, le contexte fait, effectivement, pousse. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est le rôle du contexte. Finalement, les personnages sont assez secondaires, c'est un roman finalement assez ethnographique. Finalement, l'Église, le poids de l'Église, le poids du secret, le poids des traditions, tout ça pousse finalement au drame.
Alors, on va y venir justement, on ne va pas te raconter, mais un jour, de retour au village, il se doute que son épouse le trompe. Il la suit, et là, il découvre quelqu'un, alors on ne va pas dire qui c'est, parce que sinon on dit trop de choses, il découvre quelqu'un à moitié nu, en train de donner du plaisir à Jeanne, hein, disons-le, son épouse. Et là, après un moment de sidération, il bascule.
Il va basculer et puis il va chercher ensuite du secours et en fait il en trouvera nulle part et c'est ça qui m'intéresse aussi. Hein. C'est cet homme qui finalement se heurte à des murs et c'est le roman d'une déchéance en réalité. La déchéance, évidemment, un thème littéraire qui a toujours intéressé les écrivains. Hein. C'est ce mouvement de la chute qui me passionne, effectivement. Mmh. Il demande de l'aide au curé, il demande de l'aide à sa famille, il demande de l'aide aux voisins et finalement tout le monde est à la fois extrêmement condescendant par rapport à ce qui se passe. Tout le monde feint de vouloir l'aider mais en réalité tout le monde se réjouit du drame. Oui. Hein. La nature humaine a ceci de très étonnant, qu'elle se réjouit du drame d'autrui. Et c'est ça qui est dramatique, effectivement, et assez intéressant aussi d'un point de vue littéraire.
Et on le juge, tout le village va le juger, il va aller encore plus loin. On en parle juste après les libraires, avec la France et le Canada qui ont lu votre roman Julien Sansonnens. Avec la France, tiens, Sophie Todescato.
Oui, c'est un curieux livre dont la forme m'a semblé à la fois inhabituelle et un peu contradictoire. Tout en étant très bref, il prend tout de même le temps de décrire le contexte. Mais dans un format si court, j'ai trouvé que ça créait un déséquilibre dans le rythme entre le cours du récit et son dénouement bien sauvage, qui pour autant ne nous prend pas vraiment par surprise. En fait, sans que ça m'ait déplu, il m'a manqué un tout petit quelque chose pour être tout à fait convaincu.
Alors c'est vrai que c'est un roman court, il aurait pu se perdre, Julien, dans les méandres de son histoire, mais il est percutant, c'est efficace, moi je trouve. Le Canada, Audrey Martel.
Ouais, c'est un tout petit livre hein, qui veut pourtant en raconter beaucoup et ça m'a pas totalement convaincue. Il m'a semblé que tout allait trop vite. J'avais un peu l'impression d'avoir compris le but du livre et la volonté de Julien Sansonnens sans pour autant le ressentir. Pourtant, l'écriture de l'auteur m'a plu, tout comme le sujet et le contexte historique, mais quelque chose manquait pour moi.
Non, vous avez choisi l'efficacité. Vous allez droit, direct au but, et vous racontez les choses d'une façon parfois très jolie, parce qu'il y a des scènes d'amour, des scènes sexuelles qui sont très joliment écrites, et puis des scènes de violence absolue en une phrase. Votre personnage, il va basculer, une fois de plus, je ne peux pas tout dire, mais elle va se retrouver à nouveau enceinte, et ils ont déjà 3 enfants, elle va en avoir un autre, il ne va pas y croire, et il va commettre un infanticide.
Au-delà de ça,
il va aller encore plus loin, mais je m'arrête là.
Il va commettre un infanticide, effectivement, qui est motivé par une forme de paranoïa et de folie dans laquelle il s'enfonce.
Il devient fou avec l'alcool,
et donc on a une forme à la fois d'horreur devant ce qui se passe et puis aussi une forme de compassion. Et d'ailleurs, il a été jugé et on lui a attribué des circonstances atténuantes au vu de ce qu'il a vécu aussi. Et je ne crois pas que c'est le rôle de l'écrivain finalement de condamner. L'écrivain n'est pas un juge. Hein. Il s'agit d'exposer finalement une horreur, effectivement, d'un point de vue humain. Mais pas avec le rôle de l'enquêteur ni celui du juge, mais avec un regard qui est différent, qui est celui de la littérature.
Et la religion aussi, qui est là.
La religion, bien sûr.
Qui est omniprésente dans votre livre, parce que dans ces villages, elle est omniprésente, elle est très forte, elle essaye de juger, de donner un peu de morale. Mais ça, on ne peut pas l'entendre. Quand on a vécu ce qu'a vécu Marcel, la religion, elle ne sert plus à rien. En tout cas, on y a des plus.
Oui, effectivement, la religion était encore très forte. Hein. On est avant Vatican II, on est effectivement dans des terres catholiques, paysannes, pour le meilleur et pour le pire. Hein. La religion, elle apportait une structure, finalement, le sentiment de communauté, de paroisse, était très important. Hein. Effectivement, les valeurs aussi, mais aussi une forme d'enserrement, finalement. Hein. Le curé était s'invité à table hein, pour contrôler ce qui se passait dans les ménages, dans les familles, etc. C'est une époque qui révolue. Et j'interroge cette époque, effectivement.
Mmh. Bon, merci beaucoup, Julien Sansonnance. Félicitations. Parce que vous n'avez pas l'habitude de participer à des grosses émissions de radio avec plein de monde comme ça.
Non, en tout cas,
et vous
France,
êtes magnifiquement, magnifiquement illustré dans cet exercice. Bravo.
Vous êtes très
à vous.
Gentil, merci beaucoup.
Bravo. Et votre livre fait un peu débat chez les libraires, mais je peux vous dire que il y a plein de choses. C'est le débat culturel et puis plein de choses intéressantes dans ce livre et l'efficacité, c'est important. C'est très difficile d'écrire un livre court d'ailleurs.
Vous savez, la neutralité suisse a ses limites aussi.
Agnus Dei est paru aux éditions de l'ER. Merci Julien.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
On termine avec la seconde partie de la chronique des libraires. Un coup de gueule en Belgique, Déborah Damblon. Ça saigne aujourd'hui.
Mais oui, Emmanuel, un nouvel épisode dans la saga que vous adorez de Déborah qui peste contre la politique du livre en Belgique.
Oui.
Bon, alors, chez nous, comme dans les autres pays, il y a un budget qui est prévu pour faire aller des auteurs dans les classes. Oui, c'est super, vous allez me dire, parce que c'est très bien que les jeunes rencontrent des auteurs vivants. Mais devinez quoi, Emmanuel ? On n'est même pas encore au bout du mois de février et l'enveloppe, eh ben, elle est déjà vide. Ouais. Ah, comme je vous le dis. Alors, bien sûr, ce qui est déjà prévu va être honoré, mais il n'y a plus moyen de rentrer des nouveaux projets. C'est absurde ? Non, c'est désespérant, moi, je vous le dis.
Désespérant, effectivement, les budgets sont peut-être un peu trop restreints. Ça vient peut-être de là aussi. Quand tout est épuisé au bout de deux mois, il y a un problème. Un coup de cœur en France, Sophie Todescato, pour finir en douceur.
Oui, un coup de cœur pour un livre qu'on lira dans l'émotion, Emmanuel, puisqu'il s'agit de l'ultime livre de Christian Bobin, écrit très peu de temps avant sa mort en 2022, et qui rassemble avec fluidité et bien sûr beaucoup de poésie, en petites scènes, les pensées, les émotions de ces dernières semaines de la vie. C'est donc un dernier chant, où on entend la voix de Bobin, vivante et lumineuse, évoquer la musique, les musiciens, la beauté et la modestie des choses, leur vanité parfois, le murmure de la vie et des oiseaux. C'est vraiment très beau dans sa simplicité et bouleversant. Ça s'appelle Le Murmure, c'est chez Gallimard.
De Christian Bobin, vous avez tout dit, vous êtes parfaite. Merci beaucoup pour cet hommage. La semaine prochaine, nous aurons une grande séquence consacrée au printemps des poètes, avec des poètes qui seront bien sûr sur notre plateau. Merci Sophie. Pour conclure, le son de l'outre-mer avec le groupe réunionnais Terre là-bas. Extrait de l'amour créole du groupe réunionnais Terre là-bas. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Instagram et X pour communiquer avec vous. Merci Mourad Boudjelal.
Merci.
Merci Martine Lagardette, merci. Julien Sansonnance, Victor merci. Laszlo. À bientôt.
À
la réalisation, David Le Prince, avec Jérôme Ragano à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret et Christophe Magère de France Inter, avec Audrey Carme et les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, Joël Dicker depuis le Salon du Livre de Genève et une grande séquence donc autour du Printemps des Poètes. Bonne semaine à vous, bon week-end.